Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'être là et bienvenue à Justin Morin et à Mathieu Palin, que je vais avoir le plaisir de présenter dans un instant. Dans le cadre, donc cette séance pardon, se situe dans le cadre de la 6e édition du festival Effraction, qui a lieu du 12 au 16, avec une prolongation le 17 à la Maison de la Poésie, de l'autre côté de la Plaza, pas très loin dans la rue Saint-Martin. Cet entretien spécifiquement a la particularité d'être associé au club de lecture de la BPI que j'ai le plaisir d'animer une fois par mois et dont je vais vous dire un mot pour commencer. Il a lieu précisément ici, dans cette salle. Il est associé donc au Festival Effraction. Les livres qui sont présentés dans le club sont sélectionnés à l'intérieur de la sélection d'Effraction. L'entrée est gratuite sur inscription de préférence. Mais vous pouvez pousser la porte et c'est ouvert. Le programme est en ligne, il y a des suggestions de lecture pour les séances, mais n'avoir pas lu les livres n'est pas disqualifiant. Le dimanche qui vient après-demain, le 15, on aura une séance genre littéraire et études de genre avec Dete Cabal et Cui-Cui de Juliette Drouard. Dete Cabal, ma honte. Le club porte exclusivement sur la littérature contemporaine, son écosystème, et avec Effraction, évidemment, la trame de fond, c'est cette dualité ou proximité, voire porosité entre fiction et littérature du réel. Mais qu'est-ce que peut bien vouloir dire la littérature du réel? On va en parler ensemble, fiction documentaire, roman vrai, voilà, on va développer. Cette séance étant donc affiliée au club de lecture, on vous encourage à participer à la conversation de manière un peu plus collective. Donc vous avez un micro qui circulera pendant tout l'entretien, qui va pas tarder à pousser quelque part, et qui vous permettra de, voilà, de simplement lever la main et puis on vous le passe, ou vous le passez les uns les autres. Je m'occuperai pour ma part de la médiation. Notre thématique de rencontre, donc je vous le rappelle, s'intitule « Écrire à partir de faits réels ». Et je me tourne maintenant vers nos invités. Alors Justin Morin, vous êtes journaliste, vous êtes auteur donc, de ce premier roman. Je vous le présente, qui est bouleversant et qui s'intitule « On n'est plus des gens normaux », publié à la Manufacture de Livres. Alors pour le présenter en quelques mots de contexte, en 2017, la famille Yakov fait partie des victimes d'une attaque criminelle à la voiture Bélier, propulsée dans une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne. L'attaque est commise par David Patterson qui tue Angela Yakov, 13 ans, et qui laisse sa famille gravement blessée, tant physiquement que psychiquement. Vous êtes à cette époque-là journaliste, vous couvrez le procès, on est en 2021. Vous rencontrez cette famille dont les parents, Sacha et Betty, réclament justice. Cette enquête aurait pu être une publication purement journalistique, mais la perspective d'un travail littéraire prend son sens, peut-être autour de la question du temps long d'écriture, peut-être celui du besoin de comprendre. Le roman fait tenir ensemble différentes temporalités de l'attaque commise en passant par un premier procès, puis un second procès en appel. Il y a des moments de vie, des introspections, dont une introspection particulièrement intéressante à nos yeux, celle de la sœur du criminel, que vous inventez explicitement, faute de témoignages. C'est aussi un objet littéraire dont la puissance poétique est caractérisée par la capacité du texte à faire tenir ensemble des parties éloignées en termes de temps et en termes d'espace. Il y a des allers-retours, des analogies, d'échelles, de subjectivité. Il y a comme une formation très organique par le texte d'une narration qui s'étire, qui se contracte, qui part d'avant en arrière. Et cette structure est vivante, mais elle semble parfois sous le choc. Elle fait tenir des parties, et ces parties qui tiennent parfois un peu douloureusement, pas dans le style, mais dans ce qu'elles nous évoquent, paraît nous rappeler la structure de l'anatomie familiale elle-même, qui cherche à se reconstruire, à se recomposer, à tenir dans la violence du deuil. Enfin, le titre « On n'est plus des gens normaux » est une citation de Betty, la maman d'Angela, durant le procès. Alors, je la cite entièrement. « Comment peut-on enterrer son enfant et avoir une vie normale? On n'est plus des gens normaux. » Mathieu Palin, vous êtes journaliste, vous aussi. Parmi vos travaux d'enquête, on peut retenir votre série de podcasts diffusée sur France Culture et dont la thématique nous intéressera aussi ce soir, qui s'intitule « Des hommes violents ». Dans le cadre de l'émission « Les pieds sur terre », vous avez suivi un groupe de paroles où se retrouvent sous la contrainte judiciaire des hommes condamnés pour violence conjugale. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, certains largement primés, dont Ne t'arrête pas de courir. Et en 2024, vous publiez Les hommes manquent de courage. Je vous présente aussi. Voilà. Les hommes manquent de courage, qui est un roman particulièrement haletant et publié chez l'Iconoclaste. Alors c'est un roman, mais c'est un roman qui s'appuie sur le témoignage d'une femme que l'on retrouve dans le texte sous le nom de Jessie et qui a globalement été victime de la plupart des hommes de son entourage, et ce de différentes manières. Donc abus psychiques, violences physiques, viols, mensonges, trahisons, la liste est tristement fournie. Il suffit pratiquement de nommer un par un les hommes qui sont présents dans le texte pour réaliser l'ampleur des dégâts. Jessie est victime, mais elle est aussi puissante et finalement, elle assume des responsabilités qui pèsent sur elle, injustement. Suite à la démission, à la violence, au manque de courage des hommes présents dans sa vie, du père au fils, en passant par les amants, les patrons et les rencontres fortuites. Et quand son fils vient de commettre un viol, c'est dans l'habitacle de la voiture qu'elle conduit sans s'arrêter que Jessie, en lui racontant son passé, donne à son fils du contexte. Et elle le charge de prendre conscience de ce qu'il est. La structure de votre roman tient moins dans la sculpture d'une forme que dans la récurrence de trajectoires. Il y a la trajectoire de Jessie, il y a la trajectoire d'un road trip qui permet des aveux enfermés dans la voiture. Et ces allers-retours sont des digressions qui rechargent le présent d'un sens qui est toujours plus intense à mesure qu'on en apprend sur le passé de ce personnage. Le titre de votre roman est aussi, il me semble, une citation que l'on ne retrouve pas cette fois dans le roman, si je ne m'abuse.
Si, mais à la toute fin.
À la toute fin. C'est celle de Jessie. Donc, les hommes manquent de courage. Et alors, pour commencer cet entretien, j'aimerais qu'on s'appuie sur ces deux citations. J'aimerais vous demander à tous les deux si ces voix qui sont mises en exergue dans vos titres appartiennent dans le roman à des personnes ou bien à des personnages.
Bonsoir. Moi, c'est un peu particulier parce que, en effet, Jessie ne s'appelle pas Jessie, donc à partir du moment où je la nomme comme ça, c'est un personnage qui appartient au livre. Mais c'est paradoxalement l'endroit dans le livre dans lequel il y a le moins de fiction. C'est-à-dire que la fiction, elle s'insère un peu dans les interstices de la narration, du récit, de cette fameuse nuit qu'il passe à deux, mais pas tellement dans ce qu'elle est, elle, ni de ce qu'elle raconte, ni de la vie qu'elle a menée, le parcours qu'elle a emprunté pour arriver jusqu'à cette nuit-là. Donc, c'est une phrase qu'elle a vraiment prononcée. Et donc, c'est un personnage, c'est vrai, mais c'est aussi une personne que j'ai rencontrée de chair et d'os, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Et cette phrase, quand elle la prononce, je ne sais pas du tout, je tilte pas en me disant, tiens, là, ça va être le titre. D'ailleurs, quand j'ai fini ce texte et que je l'ai rendu à mon éditeur, il n'avait pas ce titre. C'est un titre qu'on a trouvé plus tard en relisant le texte et en se disant, c'est toujours une bonne manière de trouver un titre que de relire le texte et de chercher le titre dans les pages. Et c'est comme ça qu'on est retombé sur cette phrase qu'elle prononce et qu'elle prononce à un moment très précis que je ne vais pas vous dévoiler pour ceux ou celles qui n'ont pas lu le livre et qui voudraient le lire parce que c'est plutôt sur la fin. Mais ça a pris du sens et c'est pour ça qu'on l'a monté en titre. Mais c'est une phrase qu'elle prononce dans la vraie vie et que le personnage prononce aussi.
Bonjour. Moi, je répondrais que c'est avant tout des personnes et simplement par le fait que je sais quand j'écris la partie qui concerne les Yakov, ça s'appuie sur ce qu'ils m'ont raconté, sur des entretiens qu'on a eus. Et je sais que tout ce que je vais écrire sera lu par cette famille en particulier, et même avant publication, puisque j'aime pas dire le contrat, mais c'était... On s'était mis d'accord sur ce point-là, c'est que de toute façon, ils allaient lire ce que j'allais écrire. Donc à partir du moment où j'écris sur eux, ce sont des personnes et je dois les prendre en compte en tant que telles, et ils auront certainement des choses à dire sur ce que je vais écrire. Si ça avait été vraiment des personnages au sens personnage, j'aurais pu en faire ce que je veux, quelque part. Or là, il y a une contrainte évidente dès le début du projet. Après, l'écriture, je pense qu'elle peut amener, elle peut en faire des personnages. Et je dis ça parce que, forcément, moi, il y a aussi ma subjectivité dans la manière dont je l'ai décrit, dans la manière dont j'ai ressenti ce qu'ils ont pu me raconter. Et donc, à partir de là, il y a des choix Et donc, à partir de là, il y a aussi une forme de fiction autour de ces personnes-là. Après, ce qui était important, c'était que quand elle lise le texte, elle trouve un portrait fidèle à la manière dont elles se voient et à la manière dont elles ont vécu les choses.
Merci. Est-ce que ça vous inspire une première question, spontanément ? Oui ?
Vous venez de dire, bonjour, vous venez de dire si c'était des personnages, je pourrais en faire ce que je veux. Et moi, il me semble avoir lu des témoignages d'auteurs qui commencent à écrire et après leur personnage leur échappe. Et m'est venu le titre d'une pièce de théâtre que je n'ai pas lue, mais rien que le titre, ça me parle, de Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur. Donc les personnages préexistent à l'auteur et l'auteur ne peut pas toujours faire ce qu'il veut. Enfin, moi, j'écris pas, hein, mais.
Merci.
Je vais répondre. Ouais, effectivement, peut-être que ça a plus à voir avec la troisième partie du texte, où là, il y a un personnage de fiction donc, qui est lié quand même au réel et au témoignage de la sœur du criminel que j'ai entendu pendant le procès. Il y a des éléments que j'ai eus auquel j'ai eu accès dans le cadre du procès et dans le cadre du dossier d'enquête. Mais n'empêche que ce personnage est un personnage de fiction. Et c'est sûr que, j'ai du mal à dire qu'il échappe totalement à l'auteur. Bon, après, peut-être, hein, c'est une perception, mais moi, j'ai l'impression qu'après... Mais bon, c'est encore un peu particulier, parce que le statut de la sœur du criminel, donc du personnage de fiction dans la troisième partie, c'est un statut un peu particulier, parce que c'est un personnage de fiction, mais bon, je l'explique dans le texte, il y a aussi le processus d'écriture qui est raconté dans le texte. C'est un peu une transposition... de justement des éléments du réel. Mais pour moi, il y a une fidélité au réel et à ce qu'a pu raconter cette femme. Donc de la même manière, c'est une fiction, cette troisième partie, mais il y a quand même des enjeux liés au réel où je ne pouvais pas faire n'importe quoi non plus. Parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une forme de fidélité avec ce que j'avais pu entendre. Encore une fois, c'est aussi ma subjectivité. Et je pense que cette femme, la sœur du criminel, je l'ai rencontrée dans les faits. Je pouvais pas faire n'importe quoi non plus, mais bon.
Non, mais oui, c'est toujours des choix quand même. En fait, je pense que on s'autorise aussi à faire vivre des personnages au-delà de ce qu'ils ont vraiment vécu, et à chaque fois, ça reste des choix. On n'est pas en transe quand on écrit dans une espèce de, enfin moi en tout cas. Je m'avance un peu pour les autres, alors que peut-être que si, il y en a qui sont en transe, mais moi en tout cas pas du tout. Donc à chaque fois je mesure le champ des possibles aussi, et jusqu'où je peux aller avec un personnage qui certes va vivre dans un livre de fiction, mais comme Justin, moi je sais qu'à la base c'est quelqu'un de chair et d'os qui va lire ce texte et qui va l'éprouver d'une manière ou d'une autre. Donc on n'est pas exactement sur la même liberté qu'un auteur de pure fiction, je mets des guillemets parce que je doute que ça existe, mais qui partirait en science-fiction totale avec une inspiration dans le réel qui serait finalement assez éloignée, donc il pourrait s'autoriser, en sachant que personne ne viendra jamais lui dire c'est de moi dont tu parles, à partir complètement en vrille. Nous, comme on est auteur novice et journaliste de formation, je pense qu'on a une espèce de déformation professionnelle aussi, une espèce de culpabilité aussi du journaliste qui s'aventure sur un terrain qui n'est pas le sien. Et donc, je sais pas si je prenais une image, c'est comme un chien qui a toujours été en laisse et un jour on lui enlève le collier, il va quand même pas partir à l'autre bout du pays, quoi. Il va peut-être aller au bout du jardin. Bah, au début, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Moi, pour moi, c'est une richesse incroyable que d'avoir accès à des personnes et de pas juste faire confiance à ma créativité d'auteur qui pourrait inventer des personnages, parce que je me méfie beaucoup de cette pseudo-créativité qui en fait est pleine d'influences qui sont tirées d'autres livres, d'autres films, d'autres séries télé, d'autres expériences, et d'avoir accès à quelqu'un de réel. Moi, en l'occurrence, Jesse, qui dans la vraie vie ne s'appelle pas Jesse, si j'ai un doute, je l'appelle. Et je lui demande, et elle m'explique. Et je creuse un peu plus le sillon de sa vie, et soudain, alors que je n'avais rien demandé, j'ai une richesse incroyable qui arrive, qui est sa parole et son expérience, son émotion, tout ça. Et donc, pour moi, c'est une richesse immense. Et je pourrais même ne pas m'en passer. C'est-à-dire que je ne me vois pas là me dire, bon bah voilà, ça y est, j'ai écrit 4 livres. Finalement, je peux me passer de cette expérience de terrain, de ces personnes, pour ne créer que des personnages qui finalement naîtraient dans mon cerveau. Je suis à peu près certain que ce serait mauvais, ou en tout cas cliché. Puisque si demain je me lance dans l'écriture d'un livre avec un héros qui serait un pêcheur sur un chalutier, bon, bah, j'ai déjà vu des documentaires, je vois à peu près à quoi ça ressemble, je pourrais lui mettre un ciré. Mais par rapport à l'expérience que je pourrais avoir si demain je me fais embaucher pendant 2 semaines sur un chalut et que je vais suivre ces gars qui vont relever les filets la nuit, boire trop, vomir, que je vais vomir mes tripes et mes boyaux, je reviendrai sur le port avec une matière bien plus précise. Et donc un sol aussi beaucoup plus solide pour avancer, pour poser mes pieds et peut-être partir en fiction. Donc pour moi, c'est une richesse d'avoir accès à des vraies personnes et à leurs vraies histoires dont je trouve un peu idiot de se passer.
Est-ce que vous avez l'impression de tous les deux de naviguer dans des registres un peu troubles entre documentaire, pas tout à fait fiction, et pour autant il y a quand même un univers qui crée ses propres logiques, ne serait-ce que narrative, au sein de vos livres. Est-ce que c'est comment est-ce que vous trouvez l'équation juste entre, mine de rien, une déontologie, alors elle ne s'applique pas réellement ici, de formation journaliste en journalisme, et de l'autre, les libertés, mais aussi les contraintes que pose la littérature?
Moi, ça a été un questionnement perpétuel au cours de l'écriture du livre, mais j'ai l'impression que c'est venu au fur et à mesure, en fait, et la forme, elle s'est faite en écrivant et en avançant et en cheminant, justement, dans l'écriture de ce texte. Au départ, je voulais que ce soit un récit documentaire, et pour moi, ça avait cette étiquette-là, récit documentaire. Il y a Florence Aubenas, je me dis, voilà, c'est l'idée, c'était de faire quelque chose qui pouvait ressembler à ça, et pour moi, j'avais cette histoire-là à laquelle j'avais été confronté, et je suis d'accord avec Mathieu, moi, quand je couvre le procès, j'ai l'impression que tout est là, en fait. J'ai tous les éléments face à moi pour raconter cette histoire. Et effectivement, c'est une richesse. Après, la question, c'est comment on va réussir à mettre l'écriture au service de cette histoire-là pour peut-être mettre en exergue ce qui nous paraît essentiel, pourquoi ça nous a marqué en particulier, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est pourquoi ces histoires-là nous marquent en particulier, en fait. Et souvent, si on gratte un peu, en tout cas, moi, me concernant, au départ, j'avais cette histoire-là et j'avais vraiment plein de signaux, il y a quelque chose. Et en fait, c'est en cheminant, c'est en allant voir les Yakov, c'est en écrivant que je me suis rendu compte aussi, en fait, pourquoi cette histoire-là avait un écho particulier en moi. Et donc, en fait, la forme, elle s'est faite au fur et à mesure. Et au départ, donc, récit documentaire, et vous posiez la question, une impression de voyager un peu en eau trouble. Moi, ça a été le cas du début à la fin, et ça l'est encore aujourd'hui. C'est un peu hybride, ce texte. Mais en revanche, ce qui était important, c'était que les lecteurs et les lectrices aient les mêmes données que moi au moment de la lecture. Qu'ils sachent, voilà, dans quoi ils s'embarquent, qu'ils soient conscients que quand on bascule dans la fiction, c'est une fiction, et qui connaissent les règles de cette fiction. Pourquoi j'écris de la fiction, pourquoi à un moment je m'autorise de basculer dans de la fiction, et quelles questions ça me pose. Et voilà, je voulais que... pour moi, c'était important que les lecteurs et les lectrices soient conscients que j'ai conscience des questions éthiques que ça pose, et que j'ai pas de réponse, mais ma manière d'avancer, d'aller au bout de ce projet, c'est de proposer une forme fictionnelle avec, encore une fois, des contraintes. C'est pas une fiction qui se permet tout. Mais donc c'est une navigation en eau trouble, mais pour moi elle est quand même claire, et il y a des éléments qui sont partagés avec les lecteurs et les lectrices. Donc en fait, on est en eau trouble, mais on est ensemble avec les mêmes informations, quoi.
Ben, je pense que c'est un débat un peu éternel, la question de la fiction, la non-fiction. Je trouve que les Américains se la posent beaucoup moins. Ils ont un peu réglé cette histoire-là avec le courant du nouveau journalisme de la deuxième moitié du XXe siècle. Et aujourd'hui, il y a des livres de fiction et de non-fiction qui sont écrits par les mêmes auteurs sans que ça pose trop de problèmes. La question, c'est celle plutôt de la véracité des faits. Moi, j'avais écrit un livre il y a 3 ans qui s'appelait « Ne t'arrête pas de courir », qui était un livre de non-fiction que j'avais pensé comme ça, et jusqu'au prénom, au nom des gens, je voulais que rien ne bouge et que tout soit intact. Mais la seule différence avec ce livre-là, c'est que dans la non-fiction, on est dans une espèce d'obsession à tout vérifier, parce qu'on on reste avec ces réflexes de journaliste, de se dire on ne peut pas s'autoriser ce jour-là il y avait 52 personnes dans la salle et qu'on le sait, on ne peut pas dire qu'ils étaient 150. Voilà, c'est un truc aussi bête que ça, parce qu'on a cette espèce de culpabilité journalistique qui nous oblige à ne rien inventer, et la fiction se niche dans la marge d'erreur finalement. Je pense qu'il faut être assez libre quand on est auteur et qu'on se prétend en tout cas vouloir écrire des bouquins, et ne pas s'interdire cette rigueur-là, hein, pour un livre et puis se l'interdire pour l'autre. Enfin, je veux dire, je me fous un peu en fait qu'on me range dans un genre ou dans un autre, quoi. J'ai l'impression que ce qui est amusant avec ce métier, c'est justement de tout essayer, quoi. De la même manière que le journaliste, c'est un mot un peu valise pour plein de métiers différents. On peut en effet faire du podcast, présenter le JT de 20h, commenter le foot en Ligue des Champions le mardi soir, et puis faire du reportage à Florence Omna. Tout ça a le même mot et pourtant ça n'a rien à voir. Donc je me pose pas trop la question de l'étiquette, quoi, qu'on met sur le livre.
Alors, et nous on se la pose alors. elle a une incidence quand même sur la nature du document. On ne s'en servira pas de la même façon si c'est un document qui tient compte strictement des faits et qui annule, en atteignant un degré zéro de la fiction, qui annule votre émotion, votre perception d'auteur.
Mais ça, c'est une question intéressante. Parce que je ne pense pas justement que la non-fiction interdise la sensibilité de l'auteur. C'est-à-dire que la non-fiction n'est pas la vérité. La non-fiction reste un objet littéraire produit par un être humain qui vient avec son cerveau, avec son histoire, avec son regard, avec sa vision des choses, son point de vue, ses propres traumatismes. Et tout ça modèle le récit et lui donne une couleur qui n'est absolument pas neutre. L'idée que la non-fiction serait neutre et la fiction ne le serait pas, pour moi, elle est vraiment, il faut vraiment s'en détacher, parce que... Parce qu'on aurait pu mettre 50 journalistes dans cette cour criminelle, et il y aurait pu avoir 50 histoires différentes. En fait, ce sont des regards et des sensibilités qui font les textes. Donc pour moi, c'est vraiment assez à se détacher de cette idée de vérité, quoi.
Je ne vous oublie pas. Je voudrais simplement rebondir sur ce point-là, puisque vous parlez de subjectivité, tous les deux, enfin d'émotion, et qu'évidemment, ça n'annule pas la notion de vérité. En l'occurrence, cette subjectivité, vous l'empruntez à d'autres pour ces textes. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de ça? Comment est-ce que vous vous êtes projeté, à la fois à distance, c'est-à-dire critique, avant de faire ce choix-là? Et concrètement, comment est-ce que vous vous projetez dans ces subjectivités, pardon, qui ne sont pas les vôtres habituellement?
Alors, donc moi, pour la première partie plus récit documentaire, donc avec les parents, avec les principales victimes, je m'appuie vraiment sur de longs entretiens que j'ai menés avec eux, chez eux, que j'ai enregistrés. Et il y avait une place importante, enfin, il y a eu, moi, une vraie réflexion sur la manière de mettre en page la parole. Comment je rapporte cette parole-là et comment, en fait, j'essaye de faire exister leur subjectivité grâce, justement, à ce qu'ils m'ont raconté, mais précisément grâce à ce qu'ils m'ont raconté. Et donc, c'est pour ça que dans le texte, il y a vraiment des longs passages qui sont écrits à la première personne, où ça bascule d'un coup à la première personne. Parce que c'est un moment où c'est Sacha qui parle, où c'est Betty qui parle, donc qui sont les parents d'Angela, l'adolescente décédée dans cette histoire. Et pour moi déjà, enfin ça, ça a été un questionnement important de comment je mets en page ça pour bah, pour transmettre ces émotions que moi j'avais reçues au moment des entretiens. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est cette subjectivité-là. Encore une fois, il fallait qu'au moment de la relecture, quand eux allaient lire le texte, il fallait qu'ils soient en accord avec ce que j'ai écrit et que ce soit en accord avec, bah, avec leur subjectivité, justement, puisque c'était quand même ça l'idée. Après, quand le texte bascule, il y a une partie sur le procès. Donc là, je le raconte à la première personne, moi, justement, un journaliste. Donc là, je peux me permettre, enfin, c'est ma subjectivité, c'est pourquoi, comment j'entre dans cette histoire. Et donc, la troisième partie qui bascule sur la fiction... là, je ne dirais pas que j'emprunte une subjectivité, parce que là, justement, je me permets, du fait que ce soit une fiction, je me permets d'aller beaucoup plus loin, justement, dans ce que peut ressentir le personnage de Lisa. Et j'essaie d'utiliser les outils de la littérature et de la fiction pour faire passer des émotions qui sont en lien avec celles que j'ai pu ressentir au moment du témoignage de cette femme à la barre. Mais quand même... Vu que je me suis interdit de raconter les faits réels, puisque c'est quand même ça l'enjeu du texte, c'est dans la troisième partie, je raconte une histoire familiale qui est parallèle à ce qu'a pu vivre la femme avec son frère, donc son frère criminel, pardon, hein, si c'est pas clair, mais voilà, ils ont vécu quelque chose, un contexte familial difficile, on va dire. Bon, bah, moi, je me suis interdit de raconter ce contexte-là, j'ai choisi de raconter un autre contexte familial parallèle. Mais différent donc de la réalité, pour essayer de transmettre ce que j'avais eu l'impression de comprendre pendant ce procès. Mais donc à partir de là, j'ai l'impression que ce contrat, ce pacte de lecture en quelque sorte avec les lecteurs et les lectrices, il me permet d'aller plus loin et d'aller plus loin que la subjectivité de cette femme. Et d'ailleurs, bon, encore une fois, je l'ai rencontrée, mais je me suis interdit quelque part de raconter ce qu'elle a pu me raconter, donc j'étais encore une fois limité.
Cette femme, peut-être pour vous donner un tout petit peu de contexte, c'est la sœur du meurtrier qui, est-ce que je peux en dire un peu plus,
ouais.
Qui témoigne, elle est convoquée à la barre en tant que témoin et elle prend la défense de son frère. Elle tente plutôt de le disculper, quoi. Le récit nous le propose dans une interprétation de presque de préservation du clan, quoi. Il y a qui est même considérée avec une certaine bienveillance, une tendresse, quoi, de comprendre pourquoi est-ce que la sœur défend le frère contre toute évidence, quoi.
Voilà, ma bienveillance, elle va envers cette femme qui, effectivement, au moment du procès, est appelée pour donner des éléments de contexte, pour parler de son frère, essayer de donner des éléments pour savoir qui il est et essayer de comprendre. Bon. Au final, on ne comprend pas grand-chose sur ce qui a pu pousser cet acte. Donc, le fait que cet homme fonce sur la terrasse d'une pizzeria sans raison apparente. Mais oui, ma bienveillance, elle va envers cette femme parce qu'elle, elle est appelée à témoigner. Et c'est vrai dans ce procès-là, mais c'est vrai dans d'autres procès que j'ai pu couvrir. La famille, quelque part, la famille d'un criminel, elle est toujours un peu coupable. Et elle n'a pas trop le droit à la parole. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi dans ce procès-là. Alors, elle a le droit à la parole au moment du procès, évidemment, mais c'est une parole qui est contrainte, qui est imposée par la justice, parce qu'on les oblige à donner des éléments de contexte sur la famille pour essayer de comprendre. Mais je trouve que, voilà, encore une fois, c'est une position qui est difficile. Le but n'était surtout pas de comparer des souffrances entre, d'un côté, les victimes et, de l'autre, cette femme qui vient témoigner. Mais pour moi, il y avait des échos et des passerelles à faire entre entre ces deux clans, entre les victimes et de l'autre côté, cette femme et son frère, et plus généralement sa famille. Et en fait, pour moi, les passerelles, elles étaient surtout... comment dire, ce que je voulais surtout mettre en exergue, c'est comment les liens familiaux sont travaillés d'un côté comme de l'autre, au prisme d'un drame comme celui-là.
Ah, merci Agnès.
Il y a beaucoup de confusion dans votre récit vécu. Le réel est là, on les voit, vous fuyez quelque chose. On vit en plein fait divers, hein. Le réel parmi nous. D'abord, les titres, on n'est pas des gens normaux. Ça m'a attiré beaucoup. J'allais dans plusieurs librairies, je me disais, tiens, c'est nouveau, ça. C'est un essai littéraire, ou bien c'est un essai philosophique. Parce que vraiment, on vit dans un monde qu'on n'est pas normaux. Et il y a beaucoup de psycho. Voilà. On est toujours des éléments à faire quelque chose qui perturbe. Au nom de ça, pourquoi vous devenez si compliqué devant un fait divers que vous laissez devant vous? Vous le contournez, je suis là, tout. Comment pas, vous êtes devant. C'est tellement simple. Qu'est-ce que vous voulez pas voir? Le réel est là. Il y a un crime, tout ça, mais il n'y a que ça. De toute façon, hein, vraiment, il y a un crime. Il y a énormément de choses qui se font. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou bien ça vous choque, ou vous avez vécu cette atmosphère. Moi, j'analyse ça, au fond. Parce que c'est ça que je ressens. Vous parlez, vous le contournez, tout. Ça pouvait être un film. Hein. Oh, combien de films il y en a autour de ça qui sont inspirés de ça. Qu'est-ce que vous fuyez de ces réels? Le monsieur à côté, qui a vécu un autre réel, c'est quelque chose de plus égal, plus équilibré avec son réel. Et vous, pas. Est-ce que je peux savoir ou pas?
La parole est à la défense.
Surtout le titre, hein, surtout le titre, hein, qui m'a attiré beaucoup, on n'est pas des gens normaux. Alors là, tout à fait. Au nom de ça, vous pouvez tellement le développer. Moi, j'adorais ce titre-là, parce que personne n'est normal dans une société anxiogène, malade, et tout cela. Vous choisissez en plus ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Et vous êtes en plus un fait divers banal, franchouillard. Hein. Mais même avant-hier, ça s'est passé. Quelque chose, Louise, je ne sais pas quoi et tout. Je vous dis, qu'est-ce qui vous fuyait? Vous inspirez de quelque chose. Voilà,
on va attendre la réponse à présent.
Alors, le livre commence par ce qui s'est passé. Et je m'y confronte puisque j'ai eu accès au dossier, j'ai suivi le procès, j'ai rencontré les protagonistes. Donc j'ai pas l'impression d'avoir fui grand chose. Si ce que j'ai fui, ou en tout cas si à un moment j'ai dû contourner le réel, faire autre chose, c'est parce que la vie de la personne dont je voulais raconter, cette personne n'était pas d'accord. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, mon choix a été de respecter sa parole et de ne pas raconter ce qu'elle ne souhaitait pas que je raconte à partir du moment où ces éléments qu'elle avait révélés pendant le procès n'étaient pas révélés dans la presse, n'étaient pas révélés sur Internet. Donc voilà, ma position, moi, en tant qu'auteur, en tout cas dans ce livre-là, ça a été de ne pas raconter ça parce que cette femme ne voulait pas que je le raconte. Donc oui, à un moment, je contourne, on peut employer tous les mots qu'on veut, mais en tout cas, moi, c'est ma manière d'aller au bout du processus d'écriture qui était celui-là, au bout de mon idée qui était de raconter cette histoire. J'ai pas pu la raconter telle que je le souhaitais, mais je l'ai racontée d'une manière. Ouais, je l'ai racontée d'une manière, bien sûr, mais je pense que de toute façon, tous les auteurs et toutes les autrices qui écrivent sur le réel, ils l'écrivent à leur manière. C'est exactement ce que disait Mathieu tout à l'heure. On écrit avec notre sensibilité, on écrit avec notre approche, on écrit avec les détails qui nous ont marqués, particulièrement nous. Donc voilà, mais j'ai pas écrit ce que j'aurais aimé écrire au départ, c'est-à-dire du récit documentaire brut, mais au final je suis satisfait du cheminement que je raconte dans le livre et de je suis aussi satisfait de là où il m'a mené finalement. Donc je vous invite à le lire et comme ça vous verrez un peu. Parce que je suis journaliste toujours, mais à l'époque, je travaillais pour le service police-justice d'une radio qui s'appelle Europe 1, et donc j'ai été amené à couvrir ce procès.
Est-ce que... Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que, pour conclure sur cette troisième partie qui nous occupe un peu là, mais est-ce que ce serait exagéré d'y voir un petit statement d'un passage d'une discipline à l'autre, de passer en littérature par une partie totalement fictionnelle qui marque une rupture quand même avec les eaux troubles dont on parlait juste avant?
Oui, oui, c'est sûr qu'il y a une bascule, mais après, je suis aussi, Mathieu, il a dit un truc qui est important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a des frontières entre journalisme et fiction, enfin, de la manière en tout cas dont je pratiquais le journalisme quand j'étais à Europe 1, c'est évident. Mais j'aime pas mettre des barrières. Enfin, aujourd'hui, je me considère toujours comme journaliste et je me considère aussi comme auteur. Et en fait, je trouve qu'il y a des outils du journalisme qui peuvent être utilisés dans un livre et il y a des outils de la fiction qui peuvent être utilisés pour écrire un article. En fait, des bons papiers, bah, on va utiliser les codes de la littérature, en fait. Donc, pour qu'un bon livre d'enquête, il faut qu'il y ait des personnages, donc ils sont des personnes évidemment, mais comment l'écriture se met au service du réel pour tenir quand même, pardon, je vais, mais ça, en même temps c'est bien cette question, ça m'a un peu boosté, mais pour moi une bonne enquête, il faut qu'il y ait un arc narratif, il faut qu'il y ait une structure narrative, et en fait c'est comme ça que les lecteurs et les lectrices ils vont aller au bout de la lecture et que ce sera un livre réussi en fait. Donc pour moi il n'y a pas vraiment de barrière et voilà.
Merci. Pour rentrer un peu dans les images des textes, il y a de toute évidence en commun la figure de la voiture dans vos deux livres qui sont des objets qui provoquent des choses très différentes, des chocs dans les deux cas. Un qui est évidemment physiquement plus explosif, plus extrême que l'autre, mais tout de même, on a une voiture qui vient provoquer cette explosion, ce crash que vous prenez en charge, Justin Morin, très bien aussi dans la manière de dilater le temps et de rendre lisible le choc, plutôt qu'une ellipse. Et Mathieu Palin, vous avez à la fois mené une partie de cette enquête en voiture. Le cœur de ce qu'on apprend nous est communiqué à travers ce vecteur-là. C'est donc un vecteur narratif et en même temps qui élabore des divulgations et qui nous en apprend beaucoup. Donc on suit ces objets dans leur trajectoire chacune. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors Mathieu Palin, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de cette figure comme objet littéraire et d'enquête?
En tant qu'objet littéraire, j'ai alors du mal à vous en parler de la voiture, mais parfois c'est le hasard des choses qui se font comme ça. Cette femme, je la rencontre un jour... parce qu'elle a écouté ce fameux podcast que j'avais fait pour France Culture dans Les Pieds sur Terre qui s'appelait Des Hommes Violents, et elle m'envoie un texto elle m'envoie un message sur Facebook dans les messages que vous envoyez quand vous connaissez pas la personne, ça tombe dans les invitations, les indésirables, et je lis ce message de cette femme que je connais pas qui me dit: est-ce que c'est vous le Mathieu Palin du podcast? Ma meilleure amie m'a envoyé les 6 épisodes, ça me parle, pourtant j'ai pas vécu ces violences, des violences conjugales, je pense que j'avais enfoui tout ça. Et puis c'est pas signé, c'est énigmatique, donc j'ai envie de la rencontrer. Et quand je la rencontre, il fait un temps un peu pourri, mais il pleut pas encore. Et j'arrive en voiture parce que j'avais plein de rendez-vous, j'étais un peu en reportage. Et elle me donne rendez-vous devant la grille d'un collège. Et elle me dit: en fait, je suis prof de maths ici. Donc est-ce que ça vous dérangerait qu'on aille un peu plus loin? Parce que tous les cafés, là, ils sont infestés de parents d'élèves. Donc je dis oui, montez dans la voiture. Et en fait, à ce moment-là, il se met à pleuvoir des trombes d'eau, on peut plus s'arrêter. Et ce premier rendez-vous que j'ai avec elle, il se passe dans cette voiture, sauf que moi, je suis au volant. Donc, je ne peux pas prendre de notes. Donc, je lui dis: excusez-moi, est-ce que je peux vous enregistrer? Parce qu'elle se met à parler comme ça, et ce qui était enfoui et qui était remonté à la surface en écoutant ce podcast, soudain, elle me le lance comme ça, comme une espèce d'offrande. Et donc, je l'enregistre. Et pendant une heure et demie, je l'enregistre. Et à la fin de cette heure et demie, j'ai quasiment pas parlé. Moi, j'ai fait que conduire en rond comme ça, en me disant où je vais... Que fait cette femme sur le siège passager, et je la redépose parce qu'elle a cours, et je m'en vais et je vais réécouter cette bande, et en fait c'est assez intéressant de réécouter des entretiens que vous avez menés vous-même, puisqu'en fait, vous vous rendez compte que vous étiez spectateur d'un truc auquel vous n'avez pas vraiment participé. Vous vous rendez compte que vos questions, elles tombent toujours à côté de la plaque, que vous n'avez pas vraiment écouté les réponses et tout. Donc, je la réécoute et ça me donne envie de la revoir. Et cette première rencontre-là, je comprends qu'elle a pu avoir lieu avec cette force, parce qu'on était seul dans un habitacle fermé et que ce qu'elle m'a dit, personne ne le sait. Il n'y a que moi, il n'y avait que moi dans cette voiture. C'est un endroit assez propice aux confidences, la voiture, parce que vous n'avez pas à supporter le regard de l'autre. Vous êtes tous les deux assis côte à côte à regarder la route. Et donc c'est plus facile pour dire des trucs très intimes et c'est d'autant plus facile pour elle qu'on ne se connaît pas. C'est un peu comme de confier votre secret le plus intime à un psy. Parce que le psy, en fait, il ne restera pas dans votre vie. Il est précisément là pour être le réceptacle de ça. Et les journalistes, parfois, ont un peu cette fonction. Et en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et donc, c'est vrai que la voiture, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience, c'est un bon endroit pour amener les gens à se confier sur quelque chose d'intime, notamment leur propre vie. Et il se trouve que 6 mois plus tard, alors qu'on se voyait toutes les semaines, et qu'elle m'avait confié cette vie, ce parcours assez dingue, en tout cas pas le parcours qu'on soupçonne en pensant spontanément à une prof de maths, je lui avais dit, mais est-ce que tu penses que tu vas en parler à ton fils de 15 ans, Marco, qui part en vrille, qui est déscolarisé, qui est en rupture avec tout le monde, qui d'une manière ou d'une autre est en dépression. Et elle me dit, non, il n'est pas assez mature, il n'est pas assez prêt, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le bon moment, quoi. Et puis un jour, elle m'appelle et elle me dit, en fait, ça y est, je lui ai tout dit. Et elle lui a tout dit dans une voiture, en venant le chercher à la soirée dans une soirée où elle était bouleversée pour plein de raisons, lui aussi. Et en fait, elle s'est dit, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant parce que c'est déjà trop tard. Et comme c'est arrivé dans une voiture, je trouverais dommage de gâcher ça. Donc je le garde. Et c'est vrai que la voiture devient un personnage, mais comme c'est pas un livre de non-fiction, c'est un livre dans lequel je m'autorise la fiction, et que moi j'ai grandi en banlieue, j'ai eu mon permis à 18 ans comme tous les mecs de banlieue, donc j'ai toujours eu des bagnoles, il m'est arrivé plein de conneries avec les voitures. Donc ma propre expérience aussi se retrouve un peu injectée dans cette fameuse nuit, parce qu'il tombe en panne sur l'autoroute un dimanche, ça m'est arrivé de nombreuses fois. J'avais une voiture qu'on m'a obligé à revendre malheureusement, dont la jauge d'essence était cassée, donc je ne savais jamais si j'étais sur le point de tomber en panne ou pas. C'est ce qui arrive à Jesse cette fameuse nuit aussi. Donc il y a des éléments de fiction qui viennent s'injecter autour de cette bagnole, parce que c'est moi qui écris le texte, mais à la base l'idée ne m'est pas venue comme ça, elle est venue parce que ça s'est vraiment passé dans une voiture.
Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur la voiture. Bon, c'est le fait divers, c'est comme ça. Mais bon, j'ai pas grand-chose à dire.
Moi, j'ai un peu à dire alors sur votre texte. il y a un parallèle poétique, familial et du crash de la voiture dans les bris de verre et dans la chair qui saute assez aux yeux dans On n'est plus des gens normaux. Il faut faire tenir ensemble un chaos douloureux quand même. Et cette voiture qui est en vrac dans un ensemble d'agitation, de peur, de douleur, de mort et de carrosserie, trouble quand même une situation temporelle et physique et spatiale et de logique et de sens. Et en fait, à travers ces phrases que vous tissez et qui vont vers le passé, le futur, qui convoquent des personnages à différents, enfin des personnes à différents moments de leur vie, de l'avancée dans le procès, on dirait qu'on essaie de trouver un sens dans le bazar, quoi. Et finalement, c'est un peu ce qui se passe aussi quand on essaie de retrouver un sens, retrouver de la vie, quand on compte un peu les vivants et les plaies, quoi, à l'issue d'un choc comme celui-ci. Donc je crois qu'au contraire, la voiture percute, nous permet de retrouver en tout cas l'état de percussion qui est produit par le texte tout au long et qui se dilue à l'intérieur, quoi.
Ben, c'est intéressant ce que vous dites. Je sais pas si, mais oui, non, mais ça me parle. Mais après, je l'ai pas vu comme ça. En tout cas, je l'ai pas interprété comme ça. Mais je trouve ça intéressant ce que vous dites. Mais vraiment, j'aurais pas beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet, je crois. Je suis désolé. Non.
Est-ce que vous voulez intervenir? Non. Pour revenir un peu au réel, est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que d'abord vos témoins ont lu, ça y est, les textes en cours d'écriture? Est-ce que vous leur avez donné une fois publié? Comment se passent vos relations sans divulguer l'intimité, évidemment.
Bien sûr. Moi, le texte, il a été lu au fur et à mesure par la famille d'Angela, par les Yakov. Mais bon, au final, il a été lu comme un bloc avant parution. Il y a eu du travail suite à cette lecture, et c'était important pour moi parce que c'était, encore une fois, on s'était mis d'accord là-dessus et je m'étais engagé auprès d'eux. S'il y a des choses qui les dérangent, je suis prêt à en parler, je suis prêt à en discuter, et on peut voir si on peut trouver une zone de compromis, et c'est ce qui s'est passé pour ce texte. Et en revanche, concernant la sœur du criminel, pour David Patterson, je ne sais pas s'il a lu le texte, la sœur du criminel, je lui avais fait parvenir une version du texte, mais bon, il y a longtemps, c'était au moment où justement je voulais la rencontrer, je voulais qu'elle participe au projet, etc. Donc, elle n'a pas eu accès à la version finale du texte. Je ne sais pas si elle a eu la version finale du texte. En tout cas, elle a eu une version précédente du texte avant parution aussi. Mais en tout cas, la version finale, je ne sais pas si elle l'a lue. Et aujourd'hui, moi, je suis toujours en rapport avec les Yakov. Il y a eu des moments compliqués, justement, avant la parution, parce que à partir du moment où le texte devenait un livre, ça a été un passage délicat auquel je m'attendais un peu, même si on s'était mis d'accord sur des choses en amont. À partir du moment où ça devient réel, à partir du moment où il y a un éditeur qui rentre en jeu, à partir du moment où, encore une fois, voilà, ça devient un objet livre et que je viens leur donner avant parution, il se passe quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis en contact avec eux et ça va très bien. Je leur raconte un peu la vie du livre et les retours que j'ai. Et je pense que c'est important pour eux aussi que cette histoire, elle existe. Elle existe et qu'on en parle. Et concernant la sœur du criminel, le dernier mail que j'ai eu avec elle, c'était avant parution, puisque je m'étais engagé auprès d'elle aussi, si jamais le livre devait paraître, je m'étais engagé auprès d'elle à l'informer avant parution. Donc elle m'a répondu cordialement, j'ai envie de dire, voilà.
Merci. Mathieu ?
Allez-y. Oh. Moi, je ne fais pas lire avant parution. Et c'est une forme de contrat aussi que je passe avec les personnes interrogées. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le faisais pas déjà quand j'étais journaliste en presse écrite. Parce que je pense que c'est humain d'avoir envie de tout changer. Et je pense que moi aussi, si un jour un journaliste venait me voir en me proposant de relire ma propre interview, mes propres... j'aurais envie de tout changer aussi. J'aurais envie d'être un peu plus clair, un peu plus beau, un peu plus... Enfin, et donc, je pose les bases d'un contrat qui n'implique pas de pouvoir faire relire le texte avant. Mais ce qui, du coup, implique un moment un peu crucial, qui est le jour où le texte existe et qu'il est sous la version livre et qu'il faut le donner. Ça a toujours été des moments douloureux, sauf pour ce livre-là. Pour Sale Gosse, mon premier roman, je m'inspirais pas mal de l'histoire de mon propre père, qui était éducateur à la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, et qui avait une histoire personnelle dans le sens où il avait été lui-même abandonné et qui avait commencé à grandir à l'assistance publique et tout. Ce côté vertigineux du gamin abandonné qui se retrouve à gérer des gamins abandonnés, je trouvais que c'était intéressant, donc j'avais injecté ça dans un personnage. Et ça avait été terrible pour lui de lire ça. Il l'avait très mal pris. Pas dans le sens où il trouvait ça... Enfin, il trouvait ça violent, en fait. Donc après, j'avais fait attention à bien expliquer la démarche, notamment à Toumani Koulibalid, qui était le héros du deuxième roman. Et je lui avais expliqué, je l'avais répété encore une fois et tout. Et malgré tout, ça avait été très violent quand même. Parce qu'il me disait, J'ai du mal à le lire parce que dès que j'ouvre le livre, ça me saute à la gueule, quoi. C'est ma vie, écrite noir sur blanc, qui va être potentiellement lue par des gens que je ne connais pas. Et dedans, bah, c'est ton regard, donc c'est pas lissé. C'est aussi ce dont j'ai honte, qui est à certains endroits écrit noir sur blanc. Donc là, pour Jessie, connaissant son histoire, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup prévenu que ça allait être violent, que ça allait être vertigineux, qu'elle allait me détester, que machin. Et en fait, quand je lui ai donné le livre, elle a été étonnamment... je suis allé lui donner à la sortie de ses cours, un vendredi soir. Et je lui ai dit, bah, tu le lis pas devant moi, tu le lis quand tu veux, mais tu prends ton temps et tout. Et à 22h le soir, elle m'appelle, je vois 4-5 appels en absence. Je me dis, oh là là, c'est bon. Elle m'envoie les avocats. Et en fait, pas du tout, elle était super émue, elle l'avait fini. Elle l'avait lu tout de suite. Et elle m'a dit, ben, c'est fou, mais c'est moi, quoi. Enfin, c'est ma voix, c'est... Ce qui était vraiment... Ça paraît bizarre, mais je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je m'attendais plutôt à l'inverse. Donc ça a été très agréable par rapport au précédent livre où ça avait été quand même toujours un petit combat d'essayer d'expliquer que finalement, j'étais pas là ni pour les rendre beaux, ni pour les rendre laids, mais d'apporter un regard sur une histoire vraie, quoi. Donc c'est parfois difficile à comprendre quand on est de l'autre côté, le travail de l'auteur.
Et peut-être j'ajouterais juste quelque chose par rapport au texte. La vraie problématique aussi quand même, c'était de base, donc je les avais prévenus, les parents d'Angela, que je voulais aussi consacrer une partie du livre aux criminels. Donc ça, ils en avaient conscience depuis le départ, mais je savais bien que de toute façon, plus on allait avancer, plus ça allait devenir concret, plus ça allait devenir compliqué. Ça, je m'y attendais, mais en fait, ce qui a été difficile, c'est que j'avais beau leur donner tous les arguments possibles et imaginables pour leur rappeler pourquoi eux se sont engagés dans ce texte, dans ce travail qu'on a fait ensemble et le lien de confiance qu'on a réussi à tisser. J'avais beau rappeler tout ça, en fait, il y a un moment où je me sentais quand même... qui suis-je pour... Parce que, oui, ce que je ne dis pas, donc, ce qui était forcément très difficile pour eux d'accepter, c'était la troisième partie, donc celle qui traite du criminel et de la famille du criminel. Et en fait, ce qui a été extrêmement difficile, c'est qu'à un moment, j'ai aucun argument en fait, à faire valoir face à ça, face à leur difficulté d'aborder cette partie-là, de lire cette partie-là. Et c'est en ça que ça a été vraiment difficile. C'est qu'il y a un moment, bah, en fait, on n'est pas à leur place et on ne peut pas imaginer en fait, ce qu'ils ont traversé et ce qu'ils traversent encore. Et la violence que c'est de se retrouver dans le même livre que quelqu'un qui a bousillé sa vie, quoi. Donc bon, mais encore une fois, c'est pour ça que c'était quand même très important d'avoir noué un lien de confiance. Et je pense que dans tes travaux, c'est aussi... En fait, tout repose là-dessus. C'est le lien de confiance qu'on arrive à nouer avec les gens qu'on rencontre. Et ce lien de confiance, il est tiraillé, je pense, jusqu'au bout, et particulièrement au moment de la parution, ou en tout cas quand le texte devient un livre. Mais voilà, moi, je suis vraiment fier aujourd'hui de les avoir au téléphone et on continue d'en discuter. Je veux dire, ce ne sera jamais terminé, mais on l'a fait et je sais que voilà, pour eux, c'est aussi important qu'on soit arrivé jusque-là. Et ouais, je pense que ça, je suis vraiment content d'avoir réussi à tisser le lien de confiance, quoi.
Mais le temps aide vachement. Ce que je disais tout à l'heure sur mon père, en fait, 6 mois plus tard, il était venu à une rencontre que j'avais en librairie, qui ressemble un peu à celle qu'on a maintenant. Et à un moment, la personne l'a demandé, mais qu'en pense votre père ? Et il était assis au deuxième rang. Donc j'ai du mal à dire, il en pense que... J'ai dit, écoutez, il est là. Donc donnez-lui la parole. Et en fait, il était finalement très fier d'être dans ce livre et que son histoire, dont il n'avait pas à avoir honte, avait été injecté comme ça dans un personnage. Et Toumani, c'est un peu la même chose. Il a trouvé ça super violent, il ne comprenait pas et tout. Puis finalement, 2-3 semaines, 1 mois sont passés et on a eu une interview, beaucoup de propositions pour qu'il vienne parler du livre. Et on les a toutes refusées et un jour, il m'a dit « Écoute, j'aimerais bien quand même en faire une ». Et il est venu, hein, on a fait un plateau télé... Il était là et tu sentais qu'il était super fier en fait de ce livre-là, même si à l'intérieur, il y a des trucs dont il a honte et il aurait aimé que jamais ça sorte, quoi. Donc je pense que le temps joue pas mal pour nous sur ces projets.
Et sur ces paroles, est-ce que vous avez une dernière question à poser ? Oui.
Merci. Bonjour. Enfin, c'est vrai qu'on peut être rassuré par rapport à votre empathie aussi, par rapport à vos personnages. Vous n'êtes pas des... Enfin, on n'a pas l'impression qu'il y ait un jugement allant à l'encontre de ces personnes-là. Mais je voulais poser une question par rapport au territoire. J'ai l'impression que vous tenez beaucoup à situer ce qui se passe dans les territoires où les gens ont vécu les choses. Pour vous, c'est la banlieue, dans l'Essonne. J'ai pas lu votre livre, Justin, mais j'ai l'impression que c'est vraiment aussi des territoires importants. Est-ce que ça, c'est pourquoi on ne déplace pas les choses ? Enfin, pourquoi vous tenez à ces territoires ?
C'est peut-être un réflexe de feignant, mais c'est des endroits que je connais très bien. Et j'ai pas la prétention de connaître très bien beaucoup d'endroits. Donc, comme j'ai envie de faire évoluer les personnages, même géographiquement, je sais que voilà, s'il traverse la National 7 et qu'il prend la rue Johnston Reckitt, et ben il arrive au dojo. Et il va faire 100 mètres de plus, il sera au tennis, et il va faire 100 mètres de plus, il sera au cimetière. Et derrière, il va pouvoir aller courir sur les bords de Seine. Et bon, ça, voilà, c'est ma géographie mentale parce que c'est les endroits dans lesquels je suis passé 355 000 fois. Et même, je vais vous dire, mon premier roman, quasiment tout le travail d'enquête et de reportage, je l'ai fait en Bourgogne, dans la région d'Auxerre, Tonnerre, Nevers, et un petit bout à Rennes. Et ben, j'ai tout transbahuté au moment de l'écriture à Ris-Orangis, là où j'ai grandi. Parce que je voulais être dans un endroit familier. Maintenant, j'ai 36 ans et à cause ou grâce à mon métier, j'ai dû déménager. Et ce dernier livre, finalement, il se passe là où j'habite, c'est-à-dire dans l'est de Paris, entre la porte de Montreuil et la rue d'Avron. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des réflexes de feignant, c'est que il suffit que je sorte de chez moi et ça y est, j'y suis. Donc c'est facile, quoi.
Et moi, la première partie, je respecte les faits, donc ça se passe à Sept-Sorts, c'est en Seine-et-Marne, après Meaux. Et le lieu où ça se passe, c'est aussi particulier parce que c'est des zones comme on peut en rencontrer plein. En France, des zones des ZAC, donc des mélanges d'entreprises et il y a un McDo, une pizzeria, enfin voilà, je pense que c'est des lieux qu'on peut tous et toutes connaître. Sur leur lieu d'habitation, enfin tout ça, je respecte ce qu'ils m'ont raconté, donc je voulais coller aux faits. En revanche, dans la partie fictionnelle, là, j'ai tout modifié. Et en fait, ça devient... Enfin, les lieux, pour moi, c'est une importance vraiment particulière parce que c'est quand même de là que va éclore aussi beaucoup de choses. Donc, le personnage de Lisa poursuit ses études au Havre. C'est pas un hasard si j'ai choisi le Havre. C'est une ville où, pour moi, c'est un endroit de fiction extraordinaire pour plein de raisons. Bon, et là, il y a le livre de Malice de Carangal qui est sorti à la rentrée, qui sera d'ailleurs au festival demain, je crois. Bon, c'est vraiment une ville où j'ai l'impression que je vais pouvoir ancrer quelque chose. C'est une ville détruite qui a été donc pour le coup, si dans la troisième partie moi tout a été basculé et c'est un ressort après pour de création pour moi, vraiment c'est un point de départ important.
Merci. Oui, merci beaucoup à tous les deux, merci à vous tous et à vous toutes.
Merci
beaucoup.
Vous retrouverez bien sûr les deux ouvrages dans le coin micro-librairie là, derrière vous, près de la vitre. Et puis bon, je vous invite à échanger avec les auteurs ici présents. Merci beaucoup.